Alors, je remercie beaucoup Elodie et Denis pour l'organisation de ce beau colloque qui, comment dire, associe de manière vraiment équilibrée et fructueuse l'enquête d'histoire de la philosophie, la réflexion sur, comment dire, l'usage de Hegel dans des problématisations et l'usage de Hegel dans des problématisations contemporaines. Bien, alors quant à moi, je me propose d'étudier quelques analyses de la démocratie en terre hégélienne ou à son voisinage, à savoir chez le Kant de l'essai vers la paix perpétuelle et de la doctrine du droit, chez le Hegel des principes de la philosophie du droit et chez le Marx de la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, dit aussi manuscrit de Kreutzner. Si le jeune Marx, dans le manuscrit de Kreutzner, défend ardemment la démocratie en voyant en elle, selon l'expression bien connue, l'énigme résolue de toutes les constitutions. En revanche, comme on le sait, Kant assimile la démocratie au despotisme et Hegel affiche son hostilité à la représentation démocratique qui, selon ses termes, voudrait que tous les citoyens individuellement prennent part à la délibération et à la décision dans l'État. Mais mon projet ici n'est pas d'opposer ceux qui ne croient pas à la démocratie à celui qui y croit ou qui y croit encore. Il est plutôt de mettre en évidence une problématique que ces trois auteurs ont selon moi en commun, tout au moins dans ces grandes lignes, et que j'énoncerai ainsi. Le peuple peut-il vraiment gouverner si l'on considère que sa souveraineté a pour condition qu'il s'élève à une forme universelle ou totale de lui-même? Le peuple peut-il gouverner si l'on considère que sa souveraineté a pour condition qu'il s'élève à une forme universelle ou totale de lui-même? En effet, aussi bien Kant que Hegel et le Marx du manuscrit de Kreutzner accorde un rôle clé aux catégories d'universalité et de totalité. En outre, tous les trois admettent que le peuple doit être souverain, mais tendent pratiquement à dénier cette souveraineté ou à déplorer une souveraineté impossible si le peuple reste, d'une manière ou d'une autre, affecté de particularités. La thèse qui est d'une certaine manière partagée par les trois auteurs, et qu'un peuple qui n'accéderait pas à la complétude ne pourrait de ce fait être politiquement son propre maître. Et c'est la logique de cette restriction que j'aimerais étudier ici. Mon pari est donc d'identifier un fil conducteur commun, alors même que les théories politiques étudiées sont non seulement contrastées, mais explicitement antagonistes. Alors, compte tenu de la brièveté du temps imparti et de la fatigue qui est la nôtre, hein, je ne pourrai présenter mes hypothèses que dans leurs grandes lignes. Cela m'évitera de dire un certain nombre de bêtises, mais cela ne sera pas suffisant, sans doute pour échapper à votre juste courroux. J'énonce tout de suite les éléments d'interprétation que je propose. Premièrement, chez Kant, l'exigence d'universalité a pour effet de limiter la participation du peuple empirique à l'exercice du pouvoir, tout en faisant jouer un rôle central au peuple idéal, c'est-à-dire tel qu'il doit être. Deuxièmement, chez Hegel, le peuple est certes doué d'un savoir et d'un vouloir appropriés à la vie citoyenne. Toutefois, nul citoyen ne peut incarner adéquatement la volonté universelle du peuple, laquelle volonté est divisée. Et troisièmement, chez le jeune Marx, la monarchie moderne a pour triste caractéristique d'entraîner l'oppression du tout, le peuple, par la partie, ses représentants politiques, de sorte qu'une restauration du peuple dans son intégrité requiert de mettre fin à la vie politique séparée. Ces trois modèles, dans leur différence, présentent chacun à sa manière la relation entre la politique et le peuple comme aporétique. Or, il n'est pas à exclure que notre conception de la vie politique vive encore de cette aporie. Alors, première section dans mon exposé, Kant, deux points, le peuple empirique ne peut être législateur. Alors, je dirais que le paragraphe 47 de la doctrine du droit nous installe d'emblée dans une difficulté. Le souverain, der Oberhaupt, dit le texte, n'est pas autre chose que le peuple. Toutefois, il s'agit alors du peuple unifié, distinct de la multitude fragmentée, celle des individus. Le peuple unifié commande et commande en tant que législateur, dit Kant dans le paragraphe 46, tandis que la multitude obéit. La difficulté alors est d'identifier ce peuple unifié. Et la réponse de Kant consiste à penser l'unification du peuple à partir du contrat idéal qui assure l'avènement de l'État. Le peuple unifié, dit-il, naît de la renonciation de chacun des individus à sa liberté extérieure pour devenir, en tant que citoyen, membre de cet être commun qu'est le peuple, précisément comme souverain de l'État. Or, se produire comme citoyen, dit le texte, c'est renoncer entièrement à sa liberté sans loi au profit de la condition juridique. Comme on le voit, pour Kant, c'est la loi qui doit régner bien plus que le peuple empirique. Et de manière cohérente, pour lui, la loi ne se définit pas d'abord comme la loi positive produite par une institution, mais comme la loi naturelle à laquelle chacun peut rationnellement assentir. Si l'on suit la doctrine du droit, rien n'oblige en effet à ce qu'une assemblée quelconque en soit l'origine. C'est la première citation sur votre exemplier. Une loi qui est si sacrée, si inviolable, qu'au point de vue pratique, c'est déjà un crime de la mettre seulement en doute, se présente comme si elle ne pouvait pas provenir des hommes, mais bien de quelque suprême législateur infaillible. De même, il est affirmé, c'est la seconde citation, que la seule constitution politique stable est celle où la loi commande par elle-même et ne dépend d'aucune personne particulière. Si la loi rationnelle doit gouverner, il n'est pas indispensable pour autant, hein, on le voit déjà, que le peuple empirique soit législateur. Toutefois, pour Kant, l'État peut-il se passer d'une instance législatrice? Le paragraphe 45 de la doctrine du droit distingue le pouvoir souverain en la personne du législateur, le pouvoir exécutif en la personne du gouvernement et troisièmement, le pouvoir judiciaire en la personne du juge. Alors, il est tentant ici, comme souvent, de voir en Kant un simple continuateur de Rousseau qui ferait de l'Assemblée du peuple, en l'occurrence comme Assemblée de députés, le dépositaire du pouvoir législatif et à ce titre, le souverain. Mais la suite du texte oblige à réviser cette interprétation. Au paragraphe 49a, il est certes question, je cite, du peuple qui est représenté par ses députés au Parlement. Mais l'enjeu du passage, paragraphe 49a, est alors de montrer que le Parlement ne peut résister au souverain, lequel est donc distinct. C'est un paragraphe contre le droit de résistance. L'argument de la critique du droit de résistance est non moins significatif. La résistance, dit le texte, amènerait le Parlement à s'arroger indûment une fonction de commandant suprême, der oberste Befehlshaber. Donc, le Parlement, normalement, n'est pas le commandant suprême. En outre, Kant moque la corruptibilité des députés, s'opposant implicitement à la théorie rousseauiste de l'Assemblée du peuple comme lieu d'émergence d'une volonté générale infaillible. C'est la troisième citation. Le peuple qui est représenté par ses députés au Parlement se trouve dans ces gardiens de sa liberté et de ses droits des gens vivement intéressés à leur propre position et à celle de leur famille dans les armées, la marine, les charges civiles. Fin de citation. Donc, vous voyez, la question reste entière. Qui est alors le législateur dans l'État? Et au paragraphe 51, Kant affirme que le monarque détient le pouvoir suprême. On en déduit qu'il admet que ce soit le monarque, le prince, qui incarne comme pouvoir législatif la volonté unifiée du peuple. Assurément, Kant n'exclut pas que l'institution joue, dans certains cas, le rôle de souverain. C'est précisément ce qu'on observa, note-t-il, dans la France de la Révolution française, où cette fonction, initialement détenue par le monarque, passa à l'Assemblée nationale. Mais, fût-ce opportun, Kant semble en douter. C'est la quatrième citation, je lis. « Ce fut donc, de la part d'un puissant souverain de notre temps, une grave erreur de jugement, que d'avoir, pour se tirer de l'embarras provoqué par de grosses dettes publiques, dévolu au peuple le soin de supporter et de partager lui-même ce fardeau suivant son bon vouloir, car ainsi tomba naturellement entre les mains du peuple le pouvoir législatif. » Vous voyez, dans ce texte, franchement surprenant, Kant relève l'inconséquence du roi Louis XVI qui espérait recouvrer quelques jours un pouvoir qu'il avait lui-même abandonné aux États généraux. Cette analyse très sévère de Kant montre encore une fois qu'il n'est pas nécessaire à ses yeux que les députés assument le pouvoir législatif. En réalité, la question de la dévolution des fonctions du pouvoir renvoie chez Kant non pas à la forma regiminis, républicanisme ou despotisme, mais à la forma imperii, la forme de la souveraineté, qui se distribue en autocratie, aristocratie ou démocratie. Je fais référence ici, vous l'avez repéré, au texte, à la distinction célèbre et difficile de l'essai vers la paix perpétuelle entre la forma regiminis et la forma imperii, que je ne vais pas développer ce point ici. Mais dans ce texte, comme on le sait, Kant se déclare hostile à la démocratie et en revanche admet l'autocratie ou l'aristocratie, c'est-à-dire, pour ce qui concerne notre problème, les régimes qui accorde la fonction de chef suprême et législateur soit au seul monarque, soit à un groupe restreint de citoyens. Une illustration de l'autocratie selon les vœux de Kant, ce serait le régime frédéricien en Prusse, et comme illustration de l'oligarchie, on peut songer par exemple à la République de Venise ou aux villes libres d'Empire. Alors, revenons précisément à la sentence fameuse de la paix perpétuelle selon laquelle des trois formes d'État, c'est la citation 5, des trois formes d'État, autocratie, aristocratie et démocratie, celle de la démocratie est au sens propre du mot nécessairement un despotisme. Une phrase évidemment extrêmement célèbre et un petit peu compliquée à digérer en fait. Si l'on s'appuie sur justement l'essai vers la paix perpétuelle, on peut dire, semble-t-il, que la condamnation de Kant vise un type de régime dans lequel tous les citoyens sont à la fois membres du législatif et de l'exécutif. Et à ce moment-là, aux yeux de Kant, le problème est double. D'abord, on aurait affaire à un exécutif, donc par hypothèse omni-inclusif, et un tel exécutif ne pourrait pas agir à l'encontre d'intérêts particuliers, ce qui aurait un effet paralysant. Forgeons une illustration. Imaginons un village minuscule dont tous les habitants seraient membres du conseil municipal. Si l'on suit Kant, il serait impossible qu'un tel conseil prenne le moindre arrêté qui contreviendrait aux intérêts de n'importe quel habitant, d'où le blocage pur et simple de l'action publique. Ensuite, et de manière plus fondamentale, dans une telle démocratie, on observe une confusion du législatif et de l'exécutif, laquelle se traduit par la dégradation des lois universelles en décrets particuliers. Je m'explique. Kant est extrêmement attaché à la distinction entre lois universelles adoptées ou ratifiées par le législatif et les décrets particuliers d'application mis en œuvre par l'exécutif. En effet, à ses yeux, c'est l'universalité de la loi qui est la condition de sa rationalité. Or, s'il y a identification du personnel législatif et du personnel exécutif, il est impossible, explique-t-il, que la législation reste désintéressée. Donc, je récapitule la critique antidémocratique de Kant. D'un côté, dans la démocratie, l'action de l'exécutif est impossible. De l'autre côté, la volonté du législatif est corrompue. La démocratie confond la volonté publique et la volonté privée, ce qui est la définition du despotisme. Alors, pour Kant, le républicanisme opposé au despotisme a pour condition, on le sait, c'est toujours dans l'essai vers la paix perpétuelle, la représentation et la séparation du pouvoir. La représentation, dans ce contexte, chez Kant, signifie, me semble-t-il, que les fonctions de pouvoir sont réservées à certains seulement. Et la séparation signifie que ce ne sont pas les mêmes qui exercent toutes les fonctions. Car si tel n'est pas le cas, aux yeux de Kant, il est certain que la volonté qui reste particulière s'imposera en lieu et place de la volonté universelle. En revanche, dans un régime où tous n'exercent pas tous les pouvoirs, il est possible de ménager une place à la volonté universelle. Et une illustration, nous avons affaire à un texte vraiment difficile à comprendre, c'est pour ça que l'interprétation que je propose peut tout à fait, je m'attends d'ailleurs à ce qu'elle soit discutée. Mais donc l'interprétation que Kant propose, c'est Frédéric II, citation 6, Frédéric II, qui au moins disait qu'il était simplement le serviteur de l'État, alors que la forme démocratique rend la chose, c'est-à-dire un gouvernement selon l'esprit représentatif, rend la chose impossible, puisque tous veulent y être le maître. Et donc, dans ce raisonnement compliqué, je soulignerai simplement que pour Kant, la démocratie rend en fait ce gouvernement, on va dire où il y a une législation universelle, impossible, et que le gouvernement autocratique ou oligarchique le rende possible, mais ni réel, ni encore moins nécessaire. Il le rend simplement possible. Okay, il ne s'agit absolument pas d'une mécanique à faillir. Bon, je ferme cette parenthèse, mais donc je termine en disant que pour Kant, le souverain doit être au sens où il doit vouloir le bien du tout et non pas son bien propre. C'est possible dans l'autocratie et l'oligarchie, mais non pas dans la démocratie. Alors, comme il est bien connu, Kant s'oppose à Rousseau en assignant au contrat originaire le statut d'une simple idée. L'unité du peuple souverain est à la fois pensable et non empirique. En un mot, elle est une pure exigence. Le peuple unifié, chez Kant, est d'une certaine manière introuvable. Et je dirais d'une manière provocatrice, et quand même, il faut se réveiller à 17h13, qu'il n'est que l'étiquette de la volonté du despote éclairé. Bon. Alors, de manière cohérente, Kant ne s'intéresse pas aux conditions réelles de l'unification du peuple qui doit être unifié. Et c'est entre autres choses sur ce point que Hegel se distingue de lui et qu'il faut maintenant l'étudier. Donc, je passe à ma deuxième section, Hegel, le peuple ne peut gouverner en tant que sujet unitaire. On va à nouveau rencontrer une aporie, puisque je ne cherche que les apories. Comment Hegel conçoit-il, quant à lui, le rapport entre la volonté de l'État et celle des citoyens? Je vais retrouver des choses qui ont été dites hein, de manière assez claire déjà précédemment. Donc, j'aimerais, quant à moi, mettre en avant deux thèses importantes des principes de la philosophie du droit. Premièrement, pour Hegel, le citoyen est et n'est pas à la hauteur de l'État. Pour Hegel, tout citoyen est certes pourvu d'une disposition d'esprit civique qui le rend capable de gouverner ou au moins de se comporter en bon citoyen. Toutefois, il reste également trop particulier pour incarner l'État en général. Et deuxième thèse, pour Hegel, la disposition d'esprit civique n'est pas immédiate, mais le fruit d'une Bildung assurée par les institutions politiques. Et on voit ainsi se dessiner deux différences remarquables par rapport à Kant. Premièrement, pour Hegel, il n'y a pas lieu de théoriser une volonté universelle du peuple comme condition de la souveraineté. Car le peuple est morcelé et nul citoyen n'échappe à sa particularité. J'irais jusqu'à dire, d'une manière qui se veut à nouveau provocatrice, que la souveraineté étatique chez Hegel est composite. Et deuxième différence par rapport à Kant, pour Hegel, la compétence politique n'est pas seulement un idéal, hein, puisque la politique est un processus de formation hein, tout à fait concret qui rend bel et bien les citoyens aptes à participer à la politique. Donc, je voudrais préciser ces deux thèses en commençant par la deuxième. Donc, la question de la formation politique. S'agissant de l'intégration du peuple dans la vie politique, Hegel est remarquablement ambivalent. D'un côté, pour lui, le peuple ne sait pas ce qu'il veut, ce qui rend indispensable l'intervention d'un pouvoir politique distinct du peuple. De l'autre, la volonté du peuple constitue l'assise de l'État. Je précise ces deux points. Alors, la première citation de Hegel, c'est la citation 7. Le mot peuple, dans la mesure où on désigne par lui une partie particulière des membres d'un État, exprime la partie qui ne sait pas ce qu'elle veut. Savoir ce que l'on veut, et plus encore savoir ce que veut la volonté qui est en et pour soi, la raison, est le fruit d'une connaissance et d'un discernement profond qui ne sont pas précisément l'affaire du peuple. Bon, et citation suivante, 8. L'opinion publique contient au-dedans de soi les principes substantiels de la justice, le contenu véritable et le résultat de la Constitution tout entière, ainsi que les besoins véritables et les tendances exactes de l'effectivité. Donc ce deuxième extrait, je pense que vous y êtes sensible, semble s'opposer directement au premier. Hein. Ici, l'opinion publique est élevée au rang de source de la vérité politique. Comment les articuler? Eh bien, à mon avis, en notant que dans le premier extrait, Hegel ne soutient ni que la masse du peuple serait dépourvue de volonté, ni qu'elle serait incapable de vouloir le bien, mais qu'il affirme de manière spécifique que le peuple n'a pas conscience de son vouloir. Or, cette thèse correspond à la locution adverbiale « in sich », au-dedans de soi ou en soi, hein, que l'on trouve dans le deuxième texte. L'opinion publique contient les principes de la justice, toutefois seulement in sich, c'est-à-dire sur un mode non développé. Alors, si on cherche une illustration, on pourrait dire, par exemple, que la politique de l'État anglais au XVIIIe siècle exprime le vouloir du peuple anglais comme Volksgeist, par exemple dans son goût du commerce et de l'expansion coloniale, mais en même temps que le peuple anglais est incapable non seulement de rendre compte de ses aspirations profondes, mais même simplement d'en avoir une conscience objective. Toutefois, comme on va le voir, cette première difficulté trouve sa solution dans la formation civique. Et donc ce n'est pas elle qui empêche, à proprement parler, le peuple de gouverner. En effet, dans l'État hegelien, le citoyen s'éduque. Il s'éduque grâce à l'activité politique. Et en elle, on vient à reconnaître son vouloir latent. On observe ce point en particulier dans l'analyse du pouvoir législatif. Selon les principes de la philosophie du droit, les débats parlementaires permettent la formation de l'opinion publique. Grâce à la publication des actes parlementaires, les citoyens s'informent et acquièrent une vue adéquate des affaires de l'État. Est-ce que vous n'êtes pas gêné par un bruit de fond? Je vous pose la question parce que moi, je suis gêné par ce qui se passe dans la classe d'à côté. Mais je suis en milieu, je suis dans un bâtiment universitaire. Bon, alors, voilà. Alors, où suis-je? Je suis... Voilà, alors, c'est la citation 9. « La publicité des assemblées des États est un grand spectacle éminemment formateur, vorzüglich bildendes, pour les citoyens, et le peuple y prend le plus souvent connaissance de ce qu'il y a de véritable dans ses intérêts. » Ce texte n'est pas un éloge de la propagande d'État, mais il analyse le processus par lequel le citoyen passe d'un stade indéterminé de la Gesinnung politique, par exemple le patriotisme vague, à un stade concret, par exemple l'acceptation en connaissance de cause de telle ou telle loi civile ou pénale. La formation politique permet à l'individu d'assentir à des lois précises et sur la base de raisonnement. C'est ainsi qu'il passe d'un attachement seulement instinctif à l'État en général à une confiance réfléchie dans des institutions déterminées et dans les normes qu'elles produisent. Cette Bildung est une universalisation au sens où l'individu en vient à épouser un point de vue d'ensemble, précisément celui du Parlement. On demandera alors, et je passe au deuxième point dans mon grand 2, en quelque sorte, on demandera alors la formation du peuple obtenue dans l'étude des débats parlementaires le rend-elle apte, tous les citoyens qui suivent ces débats à la fonction parlementaire? Sans doute. Mais avec cette restriction, qu'un parlementaire comme citoyen politiquement actif est défini non seulement par sa compétence, mais aussi par son appartenance à un État social précis. Et c'est là que nous rencontrons l'idée d'un pouvoir politique composite. Pour Hegel, les membres du peuple, même formés, sont loin d'être interchangeables. En particulier, et je n'insiste pas sur ce point bien connu, les membres du pouvoir législatif se définissent par leur appartenance à un certain milieu socio-professionnel d'Erstadt. La difficulté est de saisir ce que cette inscription particulière implique. On pourrait lire la thèse de Hegel comme simplement analytique. Tout parlementaire, comme tout citoyen, a par définition une certaine appartenance sociale. On pourrait aussi l'interpréter sur un mode simplement pragmatique. Les parlementaires ont besoin de compétences et celles-ci leur sont opportunément fournies par leur appartenance sociale. Mais la thèse de Hegel est en fait plus précise et plus originale. Pour Hegel, de même qu'une famille ou que la société civile est forcément plurielle et différenciée, de même la vie politique est animée par des individus non seulement pluriels, mais aussi tels qu'ils possèdent des identités irréductiblement distinctes. Pour Hegel, il faut une identité bien particulière pour être monarque, une autre pour être membre de l'administration gouvernementale et encore une autre pour être membre du pouvoir législatif. Illustration, par exemple, la citation 10, « L'État concret est le tout articulé en ses cercles particuliers. Le membre de l'État est membre de tel État, mais membre de l'État avec un E majuscule est le membre de tel ou tel Stand. C'est seulement dans cette détermination qui est la sienne qu'il peut entrer en ligne de compte dans l'État avec un E majuscule. » Cette conception, on s'en doute, n'a rien à voir avec une défense de la diversité au nom de la justice. Hegel ne défend pas de manière volontariste le paritarisme. Il ne s'agit pas de permettre aux groupes non dominants d'avoir accès à la vie politique. L'argument, bien plutôt, est que le peuple, dans son existence politique, se morcelle inévitablement en figure particulière. Et ne considérons pas que Hegel se réjouisse de cette situation. Pour lui, la pluralisation sans réunification, ou en tout cas, Je pense qu'on discutera sur ce point, parce qu'il y a bien un patriotisme commun, mais simplement, il n'y a pas de principe totalement rassembleur. Bon, cette pluralisation sans réunification achevée, pour Hegel, c'est un signe d'abstraction. Et je dirais que le morcellement de la vie politique est lié, en fait, au statut de l'État comme moment de l'esprit objectif, lequel, dans le parcours de l'esprit, est le moment de la scission. De même que dans l'histoire, la pluralité des peuples est irréductible, de même, dans l'État, la pluralité des instances de pouvoir est insurmontable. En définitive, le peuple peut-il gouverner chez Hegel? Eh bien, je répondrai négativement, et ceci non pas parce que le peuple serait incompétent, puisqu'il se forme, ou indigne de gouverner comme chez Kant, mais parce qu'il n'est pas un sujet unitaire. Chez Hegel, ce n'est pas le peuple en tant que tel qui gouverne, mais des citoyens, certes membres du peuple, mais qui se définissent aussi par des attributs supplémentaires. L'appartenance dynastique pour le monarque, la compétence technique pour les fonctionnaires et l'appartenance à tel ou tel état social pour les parlementaires. Et par ailleurs, une large partie du peuple est purement et simplement exclue de l'exercice actif du pouvoir. La différence entre gouvernant et gouverné est irréductible chez Hegel, et c'est là un des principaux motifs critiques de Marx dans le manuscrit de Kreuzner. Donc, et il est temps maintenant de passer au troisième moment de cet exposé. Donc, Marx, la vraie démocratie ne repose pas sur la représentation politique, mais sur l'activité sociale. Alors donc, Marx, dans la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, qu'on appelle communément le manuscrit de Kreuzner, qu'il rédige alors qu'il a 25 ans, dénonce la philosophie hegelienne, mais de manière très paradoxale. En effet, pour lui, Hegel a correctement décrit la monarchie moderne, et en particulier la monarchie prussienne. Son tort, en revanche, est d'avoir affirmé qu'elle serait une totalité achevée et sans contradiction. Mon propos, parce que pour Marx, la monarchie moderne est très contradictoire. Alors, mon propos ici n'est pas de savoir si l'on peut être d'accord ou non avec l'exégèse marxienne de Hegel, mais d'examiner ce qu'implique le texte de Marx en lui-même. Et donc, Marx oppose terme à terme la monarchie et la démocratie. Donc, en fait, il oppose le réel à l'idéal. Pour lui, dans la monarchie, le peuple est déterminé par la Constitution et par une constitution particulière qui ne lui est pas adéquate. Dans la démocratie, en revanche, le peuple détermine la constitution qui ainsi lui correspond. Mais le langage de Marx n'est pas d'emblée celui de l'injustice, c'est celui hegélien et logique de la particularité qui contredit l'universel. Citation 11, dans la monarchie, c'est une partie qui détermine le caractère du tout. Et ce diagnostic, hein, sous la plume de Marx, vaut condamnation. D'accord ? Nous sommes là absolument dans une logique hegelienne. Parce que, évidemment, pour Hegel, il faudrait que ce soit le tout qui détermine la partie et surtout pas l'inverse. Bon. Et alors, pour Marx, dans la vraie démocratie, et c'est une expression qu'il utilise, dans la vraie démocratie, en revanche, le sujet de la politique est le peuple au sens de la société civile, et que les traducteurs de Marx, on le sait, rendent volontiers par société civile bourgeoise, c'est-à-dire au sens du peuple œuvrant et produisant. Citation 12, la constitution démocratique se trouve continuellement reconduite au fondement effectif qui est le sien, à l'être humain effectif, au peuple effectif, et elle est posée comme étant son œuvre propre. Dans la vraie démocratie, dirais-je, la politique marche sur ses jambes et non pas sur la tête, et la Constitution est issue d'un fer, celui du peuple. L'extériorité de la société et de l'État dans la monarchie moderne s'exprime notamment, sous la plume de Marx, dans la récusation du caractère représentatif du caractère monarchique. Non, non, excusez-moi, dans la récusation du caractère représentatif du Parlement monarchique. La récusation repose entre autres sur les arguments suivants. Contrairement à ce que soutient Hegel, il n'y a pas d'universalisation de la disposition d'esprit bourgeoise dans l'État. Ni le prince, ni les fonctionnaires, ni les membres du pouvoir législatif ne sont capables de transcender leurs particularités. Et deuxièmement, le pouvoir politique ne représente pas la société civile parce que, loin de lui être soumis, il la soumet. La politique dans la monarchie, le politique dans la monarchie n'est pas représentatif, mais oppressif. Pour Marx, ce qu'on appelle abusivement représentation n'est que le moyen utilisé par une fraction de la société civile pour assurer son hégémonie. La relation de représentation signifie que ce segment particulier sera politiquement dominant, ce qui est, comment dire, d'emblée, comment dire, inacceptable. Alors, la proposition de Marx consiste alors à placer l'exercice du pouvoir au sein même de la société civile. Il s'agit de faire de la société civile bourgeoise une société politique effective en s'assurant que l'activité politique soit basée sur l'activité sociale. Toutefois, il est malaisé de saisir ce que signifie cette transformation, car l'analyse est peu développée. Comme vous le savez, le manuscrit de Kreutzner est inachevé. Donc, citons un des passages clés, c'est la citation 13. Chaque fonction est représentative, au sens où, par exemple, le cordonnier, dans la mesure où il subvient à un besoin social, est mon représentant, où chaque activité sociale déterminée en tant qu'activité générique représente seulement le genre, c'est-à-dire une détermination de ma propre essence, où chaque être humain est le représentant de l'autre. Il est ici représentant, non par l'intermédiaire d'un autre qu'il représente, mais par l'intermédiaire de ce qu'il est et fait. Donc, vous voyez, ce passage, dirais-je, peut s'interpréter de deux manières complémentaires. Premièrement, dans la démocratie, le cordonnier participe à la décision politique en tant qu'homme. C'est ce qu'exprime le concept d'origine feuerbachienne de genre. Tout membre de la société civile est un être humain en général et, à ce titre, un représentant du genre humain. Et en un second sens, le cordonnier participe à la décision politique en tant que cordonnier, le maçon en tant que maçon, etc. Les positions politiques se coordonnent sur le modèle de la division du travail, cependant de sorte qu'elles ne sont pas conflictuelles, mais complémentaires. La division du travail instaure une forme d'harmonie entre les individus. Ici, on le voit, c'est l'articulation différenciée de la société civile qui est le principe de l'activité politique, d'où le pluralisme de l'activité législatrice, voire même la pluralité des instances législatrices. C'est une citation qui n'est pas sur votre exemplier, mais Marx écrit que nous n'aurions pas non plus un seul, mais plusieurs pouvoirs législatifs, c'est assez étonnant, plusieurs pouvoirs législatifs qui s'arrangeraient les uns avec les autres et avec le gouvernement. Peut-être Marx pense-t-il à des conseils législatifs organisés par métier ou par filière professionnelle. Mais les deux interprétations que je citais à l'instant peuvent tout à fait être associées, hein. C'est parce qu'il y a une humanité commune que la division du travail peut être harmonieuse et que chaque rôle peut représenter tous les autres et l'humanité entière. Toujours est-il que l'idéal de Marx, dirais-je, est de substituer l'identité et l'activité sociale à la représentation politique. Ainsi, chaque agent social est politiquement actif et actif à partir de son être réel qui est un agir productif. Une difficulté du texte, cependant, Et c'est là que j'arrive à l'aporie que je cherche. Quand on cherche vraiment, on trouve. Hein. La difficulté du texte, hein, c'est qu'il est fort peu précis sur l'exercice du pouvoir. On a l'impression que Marx renonce à analyser les opérations autant du législatif que de l'exécutif. Est-ce qu'un cordonnier exerce le pouvoir comme il fabrique des chaussures? C'est peu probable. Et l'idée selon laquelle gouverner suppose d'arbitrer entre des intérêts divergents et de lutter contre les actes contraires au bien commun semble absente de cette conception de la démocratie. On a l'impression que pour le Marx du manuscrit de Kreutzmar, tout le mal en politique est engendré par la séparation du politique et du social, si bien que supprimer cette séparation suffirait à établir un état de complète concorde. Mettre fin à la constitution monarchique représentative permettrait de mettre fin à la domination du particulier, à la domination aberrante du particulier sur le tout. Marx dénonce de manière convaincante la part de mystification associée à la représentation. Mais suffit-il de se débarrasser de la représentation pour permettre au peuple de se gouverner? Gouverner consiste-t-il simplement à échapper à la séparation politique? On a l'impression que, oui, enfin, autant le Marx de juste après, de 1844, hein, analysera sans concession, comment dire, les antagonismes qui traversent la société, hein, autant on a l'impression qu'en 1843, le peuple se caractérise par une intégrité originaire qu'il s'agirait simplement de préserver. Le peuple, ici, apparaît comme une totalité homogène qui ne serait menacée que par des facteurs exogènes, et notamment par la politique représentative. Et donc, peut-être, enfin, il y aurait quelque chose de romantique, hein, chez le jeune Marx, hein, mais ça va vraiment changer, ça va vraiment changer par la suite. Alors, je termine ma troisième partie, hein, en disant que la question de l'universalité ou de la totalité n'intervient certes pas de la même manière chez Marx que chez Kant ou Hegel. Pour le Marx de 1843, en effet, le total est originaire et il est d'ordre social, ce qui n'est le cas ni chez Kant ni chez Hegel. Mais comme chez Kant et Hegel, le total ou l'universel est une exigence à laquelle la politique existante ne parvient pas à se conformer et dont on peut sérieusement se demander si une politique quelconque pourrait jamais se conformer. Alors je conclus en disant que mon souhait était de montrer à travers des auteurs qui sont par ailleurs largement antagonistes que l'exigence d'universalisation du peuple, alors universalisation dans la pluralité des significations de la notion, rend la souveraineté effective du peuple extraordinairement problématique. Si on soutient que le peuple ne peut gouverner qu'en tant qu'il s'élève à l'universel, alors le gouvernement du peuple en tant que tel se révèle à peu près impensable. La question qui se pose à nous est alors tout simplement de savoir si les notions d'universalité ou de totalité sont des catégories véritablement opératoires pour penser la politique. On pourrait soutenir qu'elles sont expressives d'une culture qui n'est plus la nôtre, et donc qu'elles sont caduques, tant nous valorisons au contraire aujourd'hui la multitude et la diversité. Toutefois, donc une manière très simple de régler l'aporie serait de changer les termes du problème. Toutefois, je dirais que l'intérêt des pensées que nous avons rencontrées est justement leur caractère aporétique et qu'elles doivent ce caractère à la tension vers l'universel et le total et finalement vers l'absolu qui les habite chacune à leur manière. Et je ne dis pas ça simplement par goût du paradoxe. Car la démocratie peut être présentée comme une forme politique essentiellement en tension, toujours insatisfaite d'elle-même, et ceci parce qu'elle est orientée vers des idéaux inaccessibles. Pour cette raison même, les apories que nous avons rencontrées gardent un sens et il y a encore à s'instruire en les étudiant. Je vous remercie.